bien. Oui, monsieur, je vous en prie.
Je souhaitais poser une question à mes collègues de l'administration. Dans l'examen de ces importantes réformes,
dans la mise en œuvre de ces importantes réformes, quel est éventuellement le facteur limitant ou ralentissant qui peut venir des opérateurs intermédiaires, des tiers de confiance, etc., qui ont pour leur compte des taux de rentabilité ou de retour sur investissement respectés? Est-ce que en termes de coûts pour les petites collectivités, c'est pas quelque chose qui sera un handicap définitif? Enfin, voilà, c'est ce qui m'interroge et c'est ce qui, mais je peux me tromper, peut expliquer une partie des difficultés.
Je vous en prie. C'est un sujet important, surtout pour les petites. Les petites. Parce que la ville de Paris, par exemple, on est en train de passer la recette, là, actuellement. Alors, quand je parle de la ville de Paris, on me dit, mais oui, mais ta ville de Paris, ne te rends pas compte, ils ont les moyens, ils ont le budget, ils ont même fait appel à un consultant, ce qui est vrai. Et on a mené ensemble le PES dépenses, plus pièces justificatives. Ils ont quasiment tout dématérialisé dans leurs pièces justificatives sur 5%. C'est-à-dire ce qu'ils ne pouvaient vraiment pas faire. On a prouvé, en faisant la ville de Paris, qu'on passait des tuyaux. Parce qu'il y a une sorte de tuyaux. On a montré que ça marchait. Donc maintenant, on fait la recette. Donc, on a d'autres petites collectivités qui sont rentrées. Par exemple, je vais citer le cas du Doubs. Dans le Doubs, le Conseil général finance, entre guillemets, les travaux pour les petites collectivités. C'est-à-dire qu'il met ensemble, les moyens avec les collectivités. Donc, et ça passe souvent par un syndicat. Également en Charente-Maritime, c'est un syndicat qui s'occupe de toutes ces opérations pour les petites collectivités, c'est-à-dire qu'il va leur préparer le travail, faire les tests, les recettages, regarder comment ça passe, les aider dans leur organisation. Et on pense que beaucoup par les syndicats, on en a parlé tout à l'heure, dans l'après-midi, le rôle des syndicats mixtes notamment, sur ce genre de sujet. Parce que vous avez raison, une grosse collectivité a la possibilité, elle a des équipes, les toutes petites, non. Et ça peut être un surcoût, effectivement, en temps, derrière. Mais en mutualisant par un syndicat mixte, c'est ce qui se passe dans plusieurs départements, notamment dans l'ouest de la France, qui est bien avancé sur ce sujet, on est gagnant sur ce là, et ça marche bien.
La problématique est un petit peu différente pour Acte, puisque les collectivités avoir recours obligatoirement à un tiers de télétransmission. Alors, quand le tiers de télétransmission, c'est un conseil général, le conseil général, en général, c'est le cas de le dire, ne facture pas. Par contre, les tiers de télétransmission qui sont des sociétés privées facturent à la collectivité leurs services, bien entendu. Mais je me suis un petit peu renseignée. Alors, ce qui est privé, bon, on crie pas sur les toits, leur prix, on leur demande pas. Bon, mais je me suis renseignée. C'est pour une petite commune, c'est 100 euros par an, un tiers de télétransmission par an. Bon, on peut pas dire que ce soit un coût très très élevé. Et bien souvent, la première année, le tiers de télétransmission, voyant quand même son intérêt, eh bien, il intervient gratuitement. Voilà. Et ils ont aussi un accompagnement. Ils vont faire une formation de la secrétaire de mairie. Donc, la collectivité, de toute façon, elle va s'y retrouver. Donc, et puis, comme le marché, quand même, est ouvert, il y a la concurrence. Donc, ce qui fait que, moi, quand je fais des communications, par exemple, dans le journal des maires, j'écris bien, il faut faire jouer la concurrence. Vous voulez choisir un tiers de télétransmission? Vous en consultez plusieurs et vous en demandez des devis. Et je pense que là, bon, ils seront gagnants. Et je pense que c'est pas un handicap. C'est pour passer à la télétransmission. C'est pas ça qui va les retenir.
Merci mesdames. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai peut-être une question un peu coquine à l'attention de Madame Lera. Hein, est-ce certes. Que finalement la mise en place d'actes n'est pas le premier acte, mais la première étape de suppression des sous-préfectures?
Ah, Diable. On a beaucoup parlé de ce sujet, la suppression des sous-préfectures. Bon, il est vrai qu'on veut recentrer le contrôle de l'égalité dans la en préfecture et non plus en sous-préfecture, mais c'est pas fait, hein, de toute façon. Quand même, il nous semble que le sous-préfet a un rôle d'accompagnement de ses collectivités dans l'arrondissement. Il est au plus proche et il devrait avoir, parce que à la sous-préfecture, il y a bien un directeur des relations avec les collectivités territoriales qui a aussi dans son escarcelle le bureau du contrôle de l'égalité, et c'est pas rien. Et donc, pour nous, actuellement, mais moi je suis pas dans les petits papiers du gouvernement, je vais vous le dire, je sais pas ni du précédent ni de celui-là pour vous dire si les sous-préfectures vont disparaître ou pas. Il y a des sous-préfectures, je sais, il y en a une où il y a 3 agents. Il y a le sous-préfet et 2 agents.
Oui, mais on se pose la question, à quoi servent les sous-préfets ?
Mais justement, ils peuvent avoir ce rôle de conseil si on le fait bien, si on leur en donne quand même un petit peu les moyens. Mais c'est tout ce que je peux vous dire.
Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Moi, j'ai une dernière question, autre générale, que je poserai à Monsieur Lager. Est-ce que la DATAR est optimiste ?
À quel point de vue ?
Sur l'aménagement du numérique dans les territoires. Enfin, l'aménagement des territoires au niveau du numérique.
Là aussi, vous êtes un petit peu subversif parce que je ne peux pas répondre à la place du délégué dans un contexte où, effectivement, nous sommes entre deux gouvernements. Donc,
y a-t-il des obstacles objectifs ou des problèmes qui peuvent, a priori, qui peuvent se poser.
Je vais vous répondre de la façon, la plus précise possible. Nous cherchons à mettre en place un réseau de nouvelle génération avec le très haut débit. Si on regarde ce qui s'est fait dans le domaine de l'électricité, ça a duré 5 ou 6 décennies. L'idée, c'est de faire plus vite. L'objectif, il est à 12 ans aujourd'hui. Même pas, on est en 2012, il est à 10 ans. Bon, donc a priori, on va se hâter maintenant que un premier cadre de gouvernance a été fixé de mettre en œuvre les opérations. Il y a déjà un certain nombre d'éléments positifs qui sont là, en particulier sur le fait que des réseaux d'initiatives publiques et des opérateurs privés peuvent se côtoyer. Il y a eu une référence à des conventions qui ont été signées sur le Loiret, mais il y en a eu aussi sur la Bretagne, sur l'Auvergne, etc. Le cadre européen va évoluer d'ici le mois de septembre. Donc là, je pense que tous les éléments seront... les éléments réglementaires seront définitivement assis pour que tout le monde sache comment faire. Il restera un élément important, c'est celui de l'abondement du Fonds d'aménagement numérique des territoires, qui demandera de prévoir des dispositions fiscales particulières. Et là, vous savez, dès qu'on fait intervenir Bercy dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, c'est peut-être là où il y a, on va dire, le tendon d'Achille de la démarche globale. C'est là où il faudra qu'on soit capable de montrer que le très haut débit, ça permet de générer plus de revenus que ce que ça coûte. Et que les 30 milliards d'euros, comme le disait le sénateur Moret dans un de ses rapports, ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Parce que dans le domaine de la e-santé, de la e-administration, de la gestion de l'énergie, de la gestion du transport, l'ensemble de la puissance publique devrait faire des économies à peu près équivalentes. Donc sans compter les économies réalisées pour les privés. Donc c'est un pari sur le futur. Il faut arriver à le financer en montrant que c'est peut-être moins cher que, par exemple, X nouveaux hôpitaux, et que c'est un arbitrage qu'il faut être capable de faire, parce que c'est vrai que l'école, dans 30 ans, peut-être qu'elle n'aura plus le même visage que celle qu'on connaît aujourd'hui. La e-santé, et en particulier pour maintenir une offre de services sur les territoires ruraux et l'existence de médecins sur les territoires ruraux, ça sera une obligation d'avoir des réseaux à très haut débit, et ainsi de suite. Donc, sur le fond, le technicien que je suis est plutôt très optimiste, c'est-à-dire qu'on va dans le sens de l'histoire. Et la France, d'ailleurs, est nettement devant bien d'autres pays. Je ne vais pas être plus long, je termine là-dessus. La France a un programme national unique en Europe. La France est un petit peu en retard sur les États-Unis ou certains États des États-Unis. Mais là-bas, il y a 130 dollars de panier moyen par famille sur des chaînes câblées, ce qu'on n'a pas ici. Et la France est un peu en retard sur le Japon Japon ou sur la Corée, mais la France n'a pas du tout la même structure urbaine. Le Japon et la Corée, c'est des immeubles d'une hauteur monumentale qui se succèdent les uns après les autres. Donc c'est très facile à câbler. Alors que quand on doit faire des villages avec des écarts, etc., des lotissements, le coût unitaire est bien supérieur. Donc dans un contexte plus difficile, aujourd'hui, l'État et l'administration française ont déjà fait un certain nombre de pas assez décisifs dans la bonne direction. Voilà. Maintenant, reste à savoir comment le nouveau gouvernement s'approprie ce chantier.
Merci beaucoup pour votre réponse. Puis merci à tous les orateurs pour la clarté de leur exposé. Merci beaucoup.